Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Paul Albou, c'est le cofondateur de Ubu. Salut Paul.
Enchanté Adrien.
Très heureux d'être ici. Aujourd'hui, on est chez WeWork. C'est la première fois que je viens dans ce bâtiment, rue Lafayette. C'est assez impressionnant. Enfin, c'est assez cool.
Ouais.
T'es content ?
Franchement, c'est cool. Ancienne caisse de dépôt, on a vu un endroit de ouf et tout. Donc,
ouais, assez cool. Ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter et revenir sur tout ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fondation de Ubu ?
Ouais. Donc, Paul Albou, cofondateur d'Ubu.
Ouais.
On a un outil de CRM social et en fait, on a pour mission de permettre aux marques de faire ce qu'on appelle du community-led growth. C'est à l'opposé de l'influence marketing. Aujourd'hui, on va vouloir systématiquement engager des personnes qui sont peu alignées avec les valeurs de la marque, un petit peu comme on pourrait s'acheter une parution dans la mode au final.
Ouais.
Là, l'objectif, c'est complètement pouvoir mieux engager sa communauté, permettre de rassembler autour de sa marque les personnes les plus alignées avec sa valeur pour se baser pour ces personnes clés, pour faire grandir son activité, faire grandir son business. Et par rapport à mon histoire, c'est assez intéressant parce que toute ma famille a toujours été dans la mode.
Ouais.
Et c'est quoi sur...
T'es parisien, t'es né à Paris.
Parisien, ouais.
T'as grandi à Paris.
Grandi à Paris. Mais mes grands-parents tunisiens, qui, lorsqu'ils sont arrivés en France, ma grand-mère était dans la confection en Tunisie. La première chose qu'elle a fait en arrivant ici, c'était arriver dans le sentier. C'était un petit peu le refuge pour les créateurs.
Et il y avait la famille, la communauté qui était là.
Exact. Pas vraiment au final. Quand ils sont arrivés, il n'y avait strictement rien.
Mais c'était en quelle année ?
C'était dans les années 60.
D'accord.
Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu, avec cette famille, c'est vraiment voir un petit peu l'évolution de la mode un petit peu dans son ensemble et des choses qui font un petit peu écho à aujourd'hui où, au début, dans les années 60, c'était un petit peu de la fast fashion, mais locale.
Oui.
C'est, ma grand-mère, elle prenait les magazines de mode, elle voyait les grands défilés, elle recopiait ultra facilement, ultra rapidement dans ses ateliers, des gens, enfin, du made in France au final, du fast fashion made in France.
Ouais.
Où ça fabriquait, elle était capable de revendre directement. C'était dans les genre entre la confection et le moment où c'était sur des points de vente. Il y avait même pas deux semaines. Ça fait penser un petit peu à ce que fait Zara aujourd'hui. C'était assez fou. Et donc ça c'est du côté de ma grand-mère. Ensuite du côté de ma maman, elle a monté une marque de prêt-à-porter qui s'appelle Paul & Joe. Où là c'est complètement différent.
D'accord, c'est ta maman Paul & Joe.
Ah, ouais.
C'est énorme. Ok.
Ouais,
faut que j'interviewe ta maman. J'ai jamais interviewé.
Écoute, je te mettrai en relation avec elle. Ouais.
Avec plaisir. Ouais.
Non, c'est cool ce qu'elle fait en plus.
Ouais, c'est incroyable. C'est une super aventure aussi.
Ouais. Et c'est ça. Et au final, ça devient une nouvelle approche où le produit prime avant tout au final.
Ouais.
Où l'objectif c'est avoir le meilleur produit. Et automatiquement avec le meilleur produit tu fais un salon et les clients sont avides du meilleur produit, les revendeurs, et donc t'es capable d'avoir une marque ultra successful comme ça. Et là depuis quelques temps au final les choses ont évolué avec d'un côté genre de la fast fashion, on parlait tout à l'heure de le lien avec le sentier, mais des Zara qui sont capables de tout pomper à des prix complètement médiocres, on est capable de tout trouver ultra rapidement, et aussi au final, même ce type de boîte à la Zara qui se font aujourd'hui disrupter par des marques à valeur, des marques qui sont capables de créer des communautés. Et donc ça, je pense que sur ces dernières années, c'est quelque chose qui ressort énormément. C'est maintenant, pour créer une marque, on se base sur ses valeurs à soi, qu'on a envie d'insuffler dans sa marque. Et c'est à partir de ces valeurs-là qu'on est capable de créer...
De fédérer une communauté, quoi.
Exactement, fédérer une communauté.
Et donc, tu grandis dans ce milieu de la mode. Alors, on parle chiffon tout le temps et tu vois ta mère faire des collections, avoir des sujets de communication, de marketing, de production, de design,
de se faire disrupter aussi, parce que c'est cool et puis après t'es moins cool, et après tu redeviens cool, et c'est hyper enrichissant. Donc qu'est-ce que t'as appris dans toutes ces années?
Bah écoute, ce que j'ai appris à ce niveau-là, c'est vraiment la consistance en vrai dans ce que tu fais. Et c'est toujours c'est la croyance que tu peux avoir vis-à-vis de ta marque, vis-à-vis des femmes que tu veux habiller. C'est surtout au niveau de ma mère, c'est quand même assez intéressant. C'est aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'elle existe, et donc les clients qu'elle avait au début, ont un peu évolué, un petit peu vieilli, et donc au final, il y a toujours un dilemme. Est-ce que je dois fabriquer pour mes clients historiques ou non? Je dois continuer à créer,
jeunes,
exactement, en fonction de mes envies, de ce qu'elle voit. Elle est ultra créative, et c'est surtout cette chose-là, toujours en fait, se focus sur ce qui est aligné avec ses croyances,
avec soi-même, avec ses tripes, avec ses guts et son guts feeling. C'est le grand sujet pour beaucoup de créatifs. Tu étudies quoi? Comment est-ce que tu... C'est quoi ton premier pas dans le monde professionnel?
C'est assez marrant parce que j'ai voulu longtemps m'éloigner un petit peu de ce registre-là.
De ce secteur, ouais.
Donc j'ai fait des études en mathématiques.
Ok.
Des mathématiques financières.
Incroyable. Dans quelle école?
À la Sorbonne.
D'accord. Sorbonne.
Ouais, Paris.
Et donc t'as fait quoi? Bac S, prépa.
Bac S. Même pas prépa directement. D'accord. En fait, université en mathématiques.
Et t'avais une appétence pour ça, pour le chiffre?
J'adorais.
Ok.
En fait, il y a un côté un petit peu jouissif là-dedans. C'est toujours le problème, le truc ultra inconnu qui paraît insaisissable sur le moment. Ouais. Et une fois que t'arrives à résoudre ça, il y a une sorte d'illumination. Il y avait un truc vraiment assez plaisant dans ces études-là.
Assez jouissif, ouais.
Ouais.
Trop bien.
Et par contre, je me suis vite rendu compte au bout de 3 ans que qu'est-ce que je vais faire après, c'était compliqué.
Ouais.
Et j'ai décidé de faire une école de commerce, donc assez basique là pour le coup. Et donc je suis rentré à l'ESSEC.
Ok.
Et c'est à ce moment-là au final que j'ai rencontré celui qui deviendra mon actuel associé, Jonas. Moi, appétence pour tout ce qui est retail, aussi beaucoup la vente. J'ai tenu beaucoup, enfin, j'ai bossé dans des milliards de boutiques, dans des concept stores, etc. Et mon associé Jonas, qui est fou de software en fait, qui est passionné là-dedans, qui a déjà monté une première boîte, qui aujourd'hui génère beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. Et y a eu un très, très grand fit entre lui et moi.
Okay.
Et on a décidé qu'on devait faire quelque chose ensemble. Donc là, ça avait commencé quand on était sur les bancs de l'ESSEC.
D'accord.
Un outil un petit peu barbant au final, c'était pour répondre aux demandes récurrentes dans les entreprises, genre un chatbot intelligent pour répondre aux demandes récurrentes. On se met là-dedans. Nous, faut savoir, quand on entreprend, on veut vendre avant même d'avoir quelque chose.
Okay.
Donc dès qu'on a l'idée, on commence à vendre, on commence à avoir quelques clients prestigieux, etc. Donc on se dit que ça peut être un super projet, sauf que là il y a le Covid qui arrive et toutes les boîtes avec lesquelles on devait bosser, elles veulent plus du tout bosser avec nous.
Ok.
Et donc là, petite remise en question.
C'est trop bien. Mais attends, juste, tu vas un peu vite quand même, parce que tes années à l'ESSEC, tu fais quoi? Il y a des stages, c'est quoi les expériences que t'as? Ça se fait en 2, 3, 4 ans l'ESSEC?
Ça se fait en 2 ans.
Deux ans.
J'ai torché en 1 an et demi parce que tu peux choisir les programmes que tu souhaites.
Ouais. Ouais. Ok. C'est là que tu rencontres aussi les garçons de The Braderie?
Je les connais bien avant en fait.
Ok, d'accord.
Même cercle d'amis en fait. Okay. Moi, je l'ai rencontré à Londres.
Ok.
Il était, je sais pas s'il était coloc ou il était tout le temps chez mon meilleur copain et on s'est rencontrés là-bas quand ils avaient leur business de
logistique, non?
À ce moment-là, ils avaient fait leur Airbnb, leur service de conciergerie en fait.
Ok, d'accord. Ouais. Très bien. Donc là, vous aviez envie d'entreprendre direct, donc vous n'allez même pas bosser pour qui que ce soit, vous montez votre boîte direct.
Ouais, en fait, avant ça, j'avais une expérience, j'ai travaillé quelques mois dans une entreprise de cosmétiques au Japon.
Ok.
Dernier stage aussi, c'était en dans une foncière, enfin un truc en finance, dans l'immobilier, ouais. quelque chose d'un peu barbant, mais bon, au final, tu te dis, qu'est-ce que je fais de mes journées, en fait? Qu'est-ce que je construis? Elles sont les valeurs dans des entreprises assez rigides.
Ouais.
Et c'était assez chaud. Donc, après cette expérience-là, au Japon, même si le voyage et tout, c'était formidable,
T'as compris que ce que vous vouliez faire, c'était plutôt entreprendre et construire un truc plutôt que gérer de l'argent d'autres personnes.
Quoi. Complètement. Okay. Ouais.
Très bien. Tu me dis aussi que tu as participé à la création de la marque de ton frère, non?
Ouais, en fait, je l'ai accompagné.
Okay.
Je l'ai accompagné, Marc Garçon Infidèle.
Okay.
Donc,
on connaît, on voit ce que c'est.
Ouais. C'est dans la legacy de la famille, là, pour le coup.
Ouais.
Et c'est passion pour un produit, de la chemise. Ma grand-mère aussi, elle faisait de la chemise. Elle avait une marque qui s'appelait Le Garage. Et une marque ultra forte. Je l'ai aidé un petit peu sur la distribution. Aussi là où c'est un petit peu mon cheval de bataille aussi sur la communauté, différents partenariats qu'ils pouvaient faire, ce genre de choses.
Trop bien, ok. Et donc là, vous sortez de... Après toutes ces expériences, vous lancez votre boîte. Et donc, c'est une boîte de quoi?
Donc, c'est Ubu ou celle d'avant?
Ah, celle d'avant.
Donc, c'était, si tu veux, un chatbot.
Ok, c'est un chatbot. Et donc, toi, tu faisais partie de l'aventure, on est d'accord,
hein? Exactement.
Du chatbot, ok.
Ouais, exactement.
Et c'est un truc qui existe toujours?
On a dû arrêter complètement. Donc, on avait 5-6 clients,
ouais,
qui étaient prêts, en fait, à utiliser notre plateforme.
Ouais.
Sauf que Covid arrive, et avec le Covid, tout ce qui est nice, on s'en fout complètement.
Ouais. Il faut sauver la boîte d'abord.
Exactement.
Ok.
Exactement. Et donc là, en fait, grosse remise en question. Et de toute manière, c'était assez intéressant parce que c'était quelque chose avec mon associé. On avait une soif d'entreprendre à tel point qu'on était prêt à faire un peu n'importe quoi tant qu'on pouvait mettre le pied à l'étrier et commencer à produire quelque chose.
Okay.
Et c'était ça, ce chatbot, c'était ça au final qui nous a poussé à le faire. Et avec le Covid, on a pu un petit peu plus prendre un petit peu plus de recul, savoir un petit peu nous, qu'est-ce qu'on aime faire, quel type d'entreprise on a envie de faire. S'intéresser aussi énormément à notre entourage.
Ouais.
Quelles sont les problématiques des gens à côté de moi, et si on essaye de faire une entreprise qui répond à des problématiques de gens à côté de toi, c'est à ce moment-là que tu vas être beaucoup plus aligné avec tes valeurs et que tu vas pouvoir créer quelque chose qui aura beaucoup plus de sens.
Carrément.
Et là, en fait, à ce moment-là, donc on est fin avril 2020, donc tout le monde fait du yoga chez soi, il y a protège son soignant, il y a plein de choses, et au final, qu'est-ce qui se passe? La vie, c'est sur Instagram, quoi.
Ouais.
Point barre.
Ouais.
Et donc, tous ceux qui avaient des activités, donc que ce soit des e-commerçants, que ce soit des créateurs, que ce soit même des chefs pâtissiers, des chefs cuisiniers,
ouais,
qui ont l'habitude d'avoir des points de vente, mais qui ont aussi une présence sur les réseaux sociaux, et là, ça fait un gros boom d'interaction. Et en fait, on s'aperçoit, en creusant avec eux, que sur tes plateformes sociales, que sur ta communauté, tu vas à la fois avoir, tu vas interagir avec d'autres créateurs qui peuvent avoir de l'impact pour ton business, aussi des influenceurs, aussi des clients, aussi des fournisseurs. Bon, vraiment un petit peu tout. Et au final, on s'est aperçu que contrairement à Facebook, en fait, je pense à Instagram qui apportait beaucoup de choses, où sur Facebook, il n'y avait pas vraiment de communauté, c'était un petit peu en one-to-one. Mm. Et sur Instagram, il y avait une sorte de... c'est un petit peu ta boutique, c'est un petit peu ton flagship,
ouais,
qui se passe sur...
C'est ton principal point de contact avec tes clients, quoi.
Exactement.
Avec ta communauté,
tout le monde,
avec tout le monde,
en fait. Avec tout le monde.
Tes fournisseurs, tout le monde.
C'est énorme. Tes futurs partenaires, tes futurs clients, tes futurs fans,
tes futurs
revendeurs, tes futurs salariés. Complètement.
Ouais.
Et on s'est aperçu qu'il y avait un gros pain, en fait. Une grosse problématique. C'est-à-dire que...
C'est quoi le gros pain?
En fait, c'est... c'était quelque chose qui paraissait ultra simple au début, mais en fait, c'est juste une simple messagerie où il n'y a que des messages qui s'empilent avec des gens qui vont dans tous les sens. Et le truc qui est assez con, c'est comment tu retrouves les personnes les plus importantes, comment tu priorises les interactions les plus importantes, comment tu es capable de mettre le plus d'impact sur les personnes qui vont avoir le plus de valeur pour ton business. Et donc là, en fait, on a commencé à réfléchir, en fait, à une messagerie sociale. Donc là, vraiment, le but, c'est plein d'interactions, pouvoir splitter les différentes interactions pour pouvoir au final se focus sur ce qui est le plus important pour la marque. Et au final, on a pu s'entourer de marques direct to consumer, quand même assez cool. Donc par exemple, We The New, par exemple The Braderie, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, on s'est collé à eux.
D'accord.
S'est collé à eux.
Et pour répondre à leurs besoins.
Exactement. Donc on a commencé sur de la messagerie. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait... Bah, pourquoi la messagerie est importante ? C'est qu'il y a une problématique de gestion de clientèle ou de communauté un peu plus large, de CRM, on peut dire. Et ça implique des considérations d'engagement d'ambassadeur, tout ce genre de choses, au final. Et ça nous a permis de créer un outil assez complet et qui fit complètement à la manière dont ces marques-là se sont développées. C'est gérer, engager au mieux sa communauté. Aujourd'hui, en fait, le community management, ça peut être vu un petit peu comme quelque chose d'assez réactif. C'est genre, j'ai plein de messages, je dois y répondre, je dois faire un post à 15h, je dois faire machin truc. Alors que l'objectif, pourquoi ces marques, elles ont réussi, c'est qu'elles ont inversé au final la tendance. C'est ok, j'ai une communauté qui est engagée vis-à-vis de moi, je suis capable de l'engager facilement pour transformer en fait, une communauté un petit peu passive en une communauté active qui est prête à se mouiller pour moi et qui, à chaque fois que j'ai un lancement, quelque chose à proposer, elle va être ultra hypée, ultra saucée à mettre ça en avant. Et donc, c'est un petit peu ça, le concept de community-led growth dont je t'ai parlé, c'est... se baser sur sa communauté, l'engager le plus possible, identifier les meilleures personnes, les engager au plus grand scale au final, pour pouvoir grandir de manière organique avec une communauté engagée.
Pour que ça soit le plus clair possible et compréhensible, est-ce que tu peux nous expliquer les grands mécanismes et nous donner des exemples assez concrets pour qu'on puisse se projeter quoi.
Ouais, en fait, c'est une plateforme de social media management. Mais qui va avoir toujours pour objectif de faire agrandir au final la communauté d'ambassadeurs des marques. Donc en gros, ça se décompose en trois volets.
Ouais.
Le premier volet, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'était un volet de messagerie sociale.
Ouais.
Donc là, le but, c'est faciliter la gestion des interactions des marques.
Toutes les entrées sur ce social media. Donc...
Facebook, Instagram, TikTok, on ajoute également Discord.
Ok, les emails aussi ?
Pas les emails parce que c'est plus support que communautaire.
Ok, très bien.
L'objectif, c'est donc les personnes clés de sa communauté au fil de sa modération, pouvoir les labelliser. Comme ça, en fait, se servir de sa modération pour déjà se constituer des listings de personnes à valeur ajoutée pour la marque.
Genre une fille qui est une super cliente, cliente VIP qui achète tous les produits que tu lances, que tu sors. Une femme d'influence qui a une communauté déjà qui est assez engagée. Elle a 3, 4 000, 5 000 personnes et elle poste régulièrement. Tu les identifies un petit peu à la mano ou pas d'ailleurs ?
Exactement.
Et donc tu leur mets un petit badge en disant cette personne elle est très importante pour moi, pour ma communauté. D'accord.
Exactement. Et en fait, c'est pour capitaliser sur la gestion de tes interactions. La plupart des marques au final elles travaillent avec un community manager et le community manager il fait que de répondre à des messages. Et au final, il y a des personnes importantes, mais ça peut être des gens influents, ça peut être des bons clients, ça peut être des personnes engagées, des journalistes, mais aussi des créateurs de contenu qui créent du contenu fabuleux vis-à-vis de la marque. Et au final, c'est quelque chose qui est toujours balayé à moins de tenir des Excel ou des
Excel
Google
horrible,
qui sont jamais à jour, etc. Donc là, vraiment, le premier sujet, c'est vraiment...
Identifier. Ouais.
Exactement. En fait, c'est manager sa communauté d'une telle manière qu'on va pouvoir capitaliser sur les personnes clés. Deuxième volet, là, c'est plus au sujet de pouvoir identifier plus de personnes encore et pouvoir les engager plus facilement. Ouais. Donc là, en fait, on constitue à nos utilisateurs en fait, une base de données communautaire. On va être capable d'analyser tous les followers de nos utilisateurs, savoir les personnes les plus influentes qui s'intéressent à la marque. En plus, aujourd'hui, il y a des grosses problématiques par rapport au reach organique d'Instagram qui fait qu'il y a très peu de personnes qui voient ton contenu alors qu'il y a des gens qui sont abonnés à toi à un moment parce qu'ils adorent ce que tu fais mais qui ne voient jamais ton contenu, donc tu n'es pas capable de les engager. Donc là, une base de données ultra large où tu es capable de filtrer les personnes qui ont tant d'abonnés, tant d'engagement, qui sont basées à tel endroit. Et aussi la possibilité de pouvoir les engager, en fait, les inviter dans des campagnes ultra facilement. Et l'objectif, c'est de pouvoir inviter toute ta top communauté qui a entre 3000 et 10 000 abonnés, par exemple, pouvoir les contacter à l'échelle pour leur proposer des actions et pour en fait les transformer en ambassadeurs.
D'accord. Et donc, tu peux leur envoyer des messages, des
Exactement.
MP personnalisés ou pas en direct de façon... Assez simple, quoi, comme si tu envoyais un email à ta base email. Quoi.
Exactement, c'est exactement ça, pour pouvoir engager plus facilement sa communauté.
Okay.
Et là, en fait, le gros point de rupture par rapport à l'influence marketing, c'est en se basant sur ta propre communauté, tu vas avoir des personnes qui vont être ultra engagées et qui vont être les plus partantes pour faire les meilleurs partenariats avec le plus d'impact. Okay. Et c'est là où tu vas avoir le meilleur referral possible.
Ouais.
Nous, par exemple, on travaille avec une marque Elle a quoi? Elle a 10 500 abonnés. Ouais. Elle a fait une fois un partenariat avec quelqu'un de sa fille, quelqu'un de sa communauté, pardon, qui a uniquement 425 abonnés.
Ouais.
Elle lui a envoyé un message à notre plateforme. Elle lui a envoyé un lien d'affiliation, par exemple. Et cette fille-là, elle a réussi à générer près de 50 ventes. Parce qu'au final, sur 400 personnes, c'est des personnes ultra engagées. C'est, ça se trouve, c'est la fille la plus fraîche du lycée ou du bureau, je sais pas. Mais c'est juste pour dire, au final, l'impact qu'une personne alignée avec tes valeurs est capable d'avoir auprès de sa propre communauté. Et c'est complètement game changer. Okay. Ouais.
Et le lien d'affiliation, etc., c'est des choses que vous générez, non?
Exactement. Ouais, okay. Ouais. On a intégré à des plateformes e-commerce.
D'accord.
Donc Shopify, là on est en train d'intégrer PrestaShop.
Ok, donc t'es capable de générer un lien d'affiliation qui va dire ok, cette vente elle vient de cette personne là, etc.
Exactement.
Et la fille le partage en story ou dans sa bio, etc. C'est... Et typiquement là, pour, là on a un exemple de best practice. Très concrètement, comment ils ont orchestré ça? Comment elle a orchestré ça, cette marque? Qu'est-ce qu'il lui a dit dans le message?
C'est super.
Quel produit elle a vendu, etc., etc. Et comment cette fille, donc cette femme d'influence ou cette micro-influenceuse, c'est comment on l'appelle?
Même pas au final, individuelle.
Individuelle, ouais. Ouais. Cet individu, cette jeune femme, comment est-ce qu'elle a présenté la chose à sa communauté pour vendre 50 produits?
Ouais. Et bah au final, c'est très intéressant. Et de la manière dont les marques contactent leurs futurs ambassadeurs, il y a quelque chose d'ultra rigide. Ce qu'on remarque quand on commence à travailler avec des marques pour la première fois, c'est elles ont un tour un petit peu de vouvoiement, elles ont un rapport un petit peu transactionnel, comme si elle avait une faveur à demander auprès de la personne en face, ouais, pour que quelque chose soit créé. Et ça, ouais, crée au final une sorte de relation ultra biaisée, parce que au final c'est pas naturel, personne s'adresse comme ça. Nous, ce qu'on pousse à nos utilisateurs à faire, et au final ce qui fonctionne le mieux, c'est toujours avoir une première interaction qui est la plus légère possible. C'est si c'est quelqu'un avec un minimum d'influence, et ben c'est dire quelque chose. Ah, j'ai vu que tu me suivais, j'adore ce que tu fais, j'aimerais trop t'offrir quelque chose, et si ça te plaît, j'aimerais trop te voir le porter, par exemple.
Okay.
Y a pas de... L'erreur qui peut être faite par des marques, c'est je vais te faire un cadeau, si je te fais ce cadeau, je souhaiterais que tu fasses un post, une story et que tu mettes ce lien-là.
Ouais, le truc horrible, quoi.
Le truc horrible qui fonctionne pas du tout. Et donc là, au final, en ayant cette approche ultra directe, sans rien demander en retour, eh ben, tu vas avoir des personnes qui vont vraiment aimer le produit, qui vont être ultra touchées par la démarche et qui vont accepter de poster avec le produit qu'elles ont reçu.
Okay.
Et c'est à ce moment-là où un premier post a été fait, où la personne elle a été vraiment engagée, elle a vraiment apprécié la démarche, où là, on va pouvoir dire, bah, t'as kiffé ça, moi ça me ferait trop plaisir qu'on répète ça, je peux te proposer un lien d'affiliation, éventuellement te remettre un certain pourcentage des ventes qu'on a pu générer via toi pour engager encore plus la personne.
Okay.
Et en fait, en se basant sur cette première approche qui est pas transactionnelle du tout, qui est plutôt conversationnelle, qui est plutôt communautaire, et ben ça permet d'identifier les vrais fans, les vrais amoureux de la marque, les vrais amoureux de la démarche, plutôt que des gens un petit peu intéressés, qui sont prêts à faire des posts, ils s'en foutent parce qu'à la fin ils vont avoir quelque chose qu'ils vont pouvoir remettre sur le bon coin, n'importe où.
Je vois très bien. Et lien d'affiliation, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais comment c'est présenté en fait par l'autre société? Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, comment c'est... Pardon, comment... Excuse-moi, parce que j'étais... J'ai vu quelqu'un passer, ouais, que je connais, je crois. Comment est-ce que cet individu a présenté cette collaboration?
C'est très facile. C'est très naturel parce qu'au final, c'est... elle fait une story.
Ouais.
J'ai reçu ça, trop sympa, ou j'adore cette marque, c'est trop cool. Allez voir. Il y a un lien, c'est plus le swipe up maintenant. Ouais. Avant le swipe up, c'était à partir de 10 000 abonnés. Maintenant, tout le monde peut mettre un lien et au final, ouais, ça ouvre la voie à énormément d'opportunités. Et au final, c'est juste, t'appuies directement, elle met le lien directement, c'est une étiquette.
Ouais.
Et depuis cette étiquette, on peut cliquer directement sur la page produit en question,
ouais,
avec un lien traqué. Et nous, on est capable de tout mesurer. Okay. Et au final, pour du côté consommateur, du côté client, ça change strictement rien.
Ok, ouais, trop bien. Et et quels sont les autres piliers de début?
Ouais. Donc on a vu deux piliers. Donc le premier pilier, c'est community management.
Ouais.
Le deuxième pilier, c'est engagement d'ambassadeur aligné avec les valeurs de sa marque.
Ouais.
Et le troisième volet, c'est principalement des fonctionnalités de reporting, de sauvegarde du GC également. En fait, pour faire gagner le plus de temps possible.
Ouais. UGC, community. C'est User Generated Content.
Exactement.
C'est ce que les, ta communauté crée comme contenu avec ton produit ou avec ton service, qui sont du contenu gratuit, quoi, que tu peux réutiliser.
Exactement.
Et qui est souvent un contenu qui engage vachement, quoi.
Exactement. Et nous, ce qu'on voit, par exemple, on a fait des... On a accompagné des clients très très loin au final, même sur des campagnes d'ambassadeurs qui vont jusqu'à même de l'ads par exemple. Et on a remarqué que en utilisant des user generated content, donc créés lors de campagnes via notre plateforme, eh ben on est capable de faire passer des ROAS, donc return on ads spend. Qui étaient en général pour ce client de x2, x3, genre jusqu'à x7.
Okay.
Bah, c'est du contenu ultra engageant, ultra organique. Et lorsque ton futur client, eh ben, il est sur son feed et il voit que c'est un contenu qui a été créé par un ambassadeur qui a reçu ça de manière authentique, toujours, ouais. Eh ben, c'est quelque chose qui est un petit peu...
assez puissant.
Hein. Un peu puissant parce qu'on ne sait plus est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que machin. Bon, au final, c'est sincère.
Ouais.
Et donc, ça facilite énormément les comportements d'achat.
Trop bien. Ok, donc ça vous l'avez créé en avril 2020, pardon.
Ouais.
Ouais, c'est fou, hein. C'est, il n'y a pas si longtemps cette histoire de Covid, ça paraît, ah ouais. L'impression que ça fait 10 ans qu'on vit avec, quoi.
Ah ouais.
Ok, c'est quoi les différents milestones, comment a évolué la plateforme et où est-ce que vous voulez l'emmener?
Ouais. Les différents milestones, donc en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est nous, on a commencé, on était juste... Il y a notre troisième associé aussi hier, qui est notre CTO. Ben, on était tous les trois pendant le Covid enfermés, on développait comme des fous. En septembre, on a sorti juste la première messagerie, donc uniquement les fonctionnalités de messagerie. En janvier 2021, on a sorti notre V1 à proprement parler, qui était vraiment le produit complet avec les trois piliers dont on a parlé un petit peu plus tôt. En avril 2021, on a fait une levée de fonds avec First qui a investi par exemple chez Cajou. Précédemment, ils avaient aussi investi chez Payfit.
Vous avez levé combien ?
On a levé 1,5 million d'euros.
Ah ouais, 1,5 million.
Ouais.
Ça commence à faire des sous, 1,5 million. Ou pas, ou ça se crame beaucoup très vite, j'imagine, mais c'est quand même énorme. Et vous diluez à quelle hauteur ?
Dans les 17%.
17% ?
Ouais.
Tu prends 1,5 million en donnant 17% de ta marque, de ta boîte.
Okay. Exactement.
Donc, et aussi des parts
qui sont préservées. Ouais.
Ouais, elle est déjà évaluée à plusieurs millions d'euros, quoi.
Ouais. Bah, en fait, c'est le marché qui est gigantesque. En fait, nous, on se positionne dans le marché du social commerce.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est 333 milliards d'euros de valorisation uniquement sur l'Occident. Si on compte la Chine, c'est 10 fois ce qui se passe chez nous.
Okay.
Un marché qui va être multiplié par 5 en 3-4 ans.
Okay.
C'est quelque chose avec une trend énorme où aujourd'hui, en fait, y a une multiplication de small brands qui se créent et qui se basent sur leur communauté dans leur go-to-market, si on peut dire. Et donc, au final, c'est qu'il y a un potentiel vraiment gigantesque.
Ok. Donc ça, gros milestone, le premier levée de fonds. Ça se fait rapidement, une levée de fonds comme ça, pour lever 1,5 million. Je ne me rends pas compte, c'est un travail de longue haleine. Vous avez eu un premier contact avec ces gens-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous n'êtes pas first-time entrepreneur, que ton associé a déjà fait une boîte qui fonctionne, qui gagne de l'argent. C'était quoi d'ailleurs ? Tu peux nous dire deux mots sur tes deux autres associés ?
Ouais, donc le premier hier, c'est notre CTO et c'est juste un hacker fou. 10 ans d'expérience, il ship tout excessivement vite, donc pour lancer un produit, c'était vraiment vraiment c'est vraiment le meilleur.
C'était le mec
qu'il faut.
Et toi, tu touches un peu au code, etc.
Non, pas du tout. Non. Bah, plus mon second associé, donc Jonas, qui lui a plus fait de l'intrapreneuriat en fait au sein d'une entreprise existante. Il a créé la version digitale d'une boîte préexistante de cartes cadeaux.
Ok.
Et il a
fait.
Il s'appelle Selp.
Selp, ok.
Ouais.
Très bien. Et lui, il avait des parts dans cette boîte ? Non, pas forcément. Ouais. Tu sais pas, on sait pas. Ça marche. Ok, donc ces deux-là avaient déjà pas mal d'expérience. Et toi, tu avais quelques expériences aussi
Exactement.
Ok.
Patek. En vrai, Patek. Sur le scope. Startup tech, on peut dire tout de même first time entrepreneur, parce que c'est un autre monde. Il y a l'approche au scale, directement l'échelle, alors qu'on est embryonnaire, on doit déjà imaginer très 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 gros.
Okay. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez lever avec une V1, même pas, vous allez lever avec une.
On avait une
avec
V1. Un deck. Ouais. Ouais, ouais, non, non, non. On avait une V1.
Vous aviez des clients.
On avait des clients ultra engagés.
Genre The Braderie et The Braderie,
Smallable, okay. We Do New, je t'en ai parlé. Livy Studio aussi. Okay. Bon, des marques assez cool, mais ce qui était bien, c'est que. Elles étaient ultra, ultra engagées par rapport aux produits. Et donc, la première chose que le fonds a fait, bah, c'était du référence check. C'est okay. Genre, bah, on va appeler les utilisateurs.
Ils sont est-ce satisfaits. Qu'ils sont contents ou pas?
Ils sont ouais. pas satisfaits.
Ouais.
Et
là, à l'époque, vous générez quoi comme chiffre d'affaires?
Là, à l'époque, on doit générer... c'est en monthly recurring revenue. Tu vois, ouais. C'est des revenus récurrents mensuels.
Ouais.
C'est quelque chose d'assez faible. On devait être ouais. à 5-6 000 euros.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Donc, c'est pas grand-chose. Vous, à l'époque, vous ne payez pas encore.
On se paye
pas possible
du
de
tout.
Se payer. Vous réinvestissez ouais. tout dans le truc.
Exactement.
Et OK, ils te posent 1,5 million et vous évaluez la boîte. Ils évaluent la boîte à
6-7 millions. Ouais.
6-7 millions, quoi. Ouais. Ouais. Intéressant.
Et donc, en fait, bah, c'est porté par un marché aussi.
Qui est fou.
Qui est fou.
Avec beaucoup d'argent.
Avec beaucoup d'argent, mais surtout qui implique qu'avec beaucoup de capitaux, tu es capable... d'attirer les meilleurs talents et au final ces meilleurs talents bah, vont rendre le côté incertain au final ça le rend certain parce ouais. qu'au final ça devient uniquement de l'exécution donc mmh. Sur le volet sales tu vas prendre le meilleur head of sales, sur le volet produit t'es capable de prendre mmh. la meilleure personne produit
okay.
sur les niveaux tech t'es capable de délivrer beaucoup plus rapidement
mmh. mais avec 1,5 million tu fais quoi parce que ça se crame vite si tu fais 2-3 recrutements de killer et plus l'investissement dans le software etc c'est, ça se crame hyper vite non comment vous dépensez votre argent
écoute bah c'est vraiment en fonction de recrutement clé
ouais,
en fait,
ouais,
de milestone qu'on a besoin d'atteindre donc nous on avait un gros sujet au début c'est on a besoin de créer une marque autour de notre produit on s'adresse okay. à des marques donc on avait besoin de quelqu'un enfin d'un community
CMO,
ouais, exactement
ok et d'ailleurs qu'est-ce qu'elle dit cette marque comment vous avez construit cette marque Ubu
bah c'est vraiment c'est un petit peu ce qu'on met en avant auprès de nos utilisateurs ce qu'on souhaite qu'ils fassent mais c'est se baser sur les besoins de notre communauté en fait c'est ouais. La première en fait pas la première plateforme mais la plateforme qui met tout en place tout en œuvre pour permettre aux marques de faire du community led growth et ça en fait ça se décline bien sûr par rapport à l'outil
ouais.
mais par rapport à du contenu qu'on met en place par rapport à une académie qu'on est en train de sortir où l'objectif c'est de rassembler les meilleures marques direct ouais. to consumer pour qu'elles puissent donner à notre communauté de marques direct to consumer les meilleures practices pour également faire du community led growth donc
okay.
c'est vraiment cette approche là c'est favoriser mettre en avant démocratiser
ouais. okay.
le community led growth pour l'ensemble des marques qui se constituent aujourd'hui sur une communauté mais qui n'ont pas tous les outils qui n'ont pas tout le knowledge pour pouvoir engager au mieux leur communauté donc tirer avoir la meilleure croissance.
Ok. Et Ubu, ça vient de quoi? Pourquoi Ubu?
C'est écoute, là-dessus, c'est on recherchait, c'est pas très intéressant. C'est je faisais mon jogging, j'étais sur les quais de Seine. Il y a sur FIP une chanson de Dick Anargan qui passe, Père Ubu, et je me dis oh putain, ça sonne bien.
Ouais.
On y va.
Ubu.
On y va.
Trop bien. Ok, next step, c'est quoi c'est vrai que vos clients, vous avez des belles marques, hein, The Braderie, Frishti, ouais. We The New, Kirastaz, Bash.
Ouais.
Toute la clique est là.
Ouais, c'est ça.
Trop bien. Donc, vous levez-vous 1,5 million, vous recrutez 2-3 killers, etc. Mais aujourd'hui, ouais. vous êtes 20 personnes, donc qu'est-ce ouais. qui s'est passé entre-temps?
Bah écoute, c'est par rapport à ça, c'est principalement recruter des techs. Nous, on est vraiment une boîte tech, 100%. C'est plus de 50% de nos coûts, c'est sur la tech.
Ok.
C'est également bah, des commerciaux qui ont pour ouais. objectif de prêcher la bonne parole, Ubu, du community led growth,
okay.
un peu partout dans le monde. On a des personnes au Japon, on a des personnes en Amérique latine.
Ouais, on va revenir là-dessus parce que vous êtes full remote.
Exactement.
Et full remote sur des créneaux horaires qui sont assez différents.
Ouais.
Et donc, explique-nous tout ça. Cette, pourquoi full remote ? Alors, ça vient, je pense, de la situation sanitaire à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas, pas possible de se voir dans un bureau.
Ouais.
Mais comment vous êtes organisé aujourd'hui et full remote, ok, mais full remote Japon, US et Europe, c'est chaud, non ?
Complètement, complètement. Et ça, ça impliquait en fait un changement dans le rapport que tu vas avoir avec, avec tes équipes et au management en général. C'est, ça implique beaucoup, beaucoup, beaucoup de flexibilité. Un management plutôt par, en fonction de KPI, en fonction d'objectifs qu'on se fixe, et le fait de faire des points en fait, le moins possible, de manière hebdomadaire, avec, avec chacune des personnes. Mais par contre, préparer bien en amont une fiche avec tous les points évalués, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, bah, au final pour limiter le nombre de points de contact en synchronisé.
On tacle tous les sujets une seule fois et on vient pas créer des interruptions. Ok, et concrètement, vous avez une liste, vous avez une trame qui vous permet de faire ce point-là. La personne l'a rempli avant le point.
Exactement.
Toi, tu rajoutes tes points, enfin en tout cas le manager rajoute ses points qu'il veut voir avec cette personne-là au préalable. Et on tacle tous les sujets. À part ça, c'est quoi les best practices pour fonctionner ?
Alors, en fait... C'est en lien avec la culture d'entreprise, en fait.
Ouais.
Je pense que sans culture, sans unité entre les membres, et ben c'est quelque chose qui peut très mal fonctionner. Nous, on a eu de la chance, donc pendant le Covid, on a créé notre boîte. Notre entreprise, disons, les quatre murs de notre entreprise, c'est au final un Discord.
C'est un Discord.
Ouais.
OK.
Et qui a été complètement approprié par l'équipe, que ce soit l'équipe design, que ce soit l'équipe tech, que ce soit l'équipe marketing.
Discord, on est d'accord que c'est un truc qui est utilisé par les gens qui jouent aux jeux vidéo,
Exactement.
Les gamers. C'est quoi ? C'est une messagerie ? C'est un WhatsApp amélioré, c'est ça ?
C'est comme un Slack beaucoup plus social, on peut créer des groupes, c'est beaucoup plus interactif, on peut mettre sa musique dedans, on peut jouer à des jeux, c'est vraiment un truc.
Il ressemble à quoi votre Discord alors ?
C'est marrant.
Non, mais c'est intéressant parce que honnêtement, moi, les gens que j'ai interviewés jusqu'à présent, il n'y a pas forcément beaucoup de gens de la tech.
Ouais.
Et bon, je pense qu'il y a quand même des best practices à prendre dans la tech.
Je vais le sortir.
Et je trouve qu'utiliser Discord, c'était. J'avais dîné avec Oussama Amar et il me disait que voilà, chez The Family, il travaillait sur Discord aussi et dans tous ses projets, il travaillait sur Discord. Mais comment est-ce que ça, à quoi ça ressemble concrètement et comment tu l'utilises dans ta journée quoi ?
Bah en fait c'est assez intéressant. Donc au final tu vas avoir des channels plutôt opérationnels.
Ouais.
Donc tu vas avoir le channel sales. On se parle de ces challenge sales avec l'ensemble de la team quand il y a un problème par rapport à un client particulier, des approches à essayer. Bon là c'est vraiment on est opérationnel à 100%. Il y a la même chose sur le volet tech où là par contre c'est ils sont en partage d'écran et dans des rooms en fait dans des espaces où tout le monde est là en live pratiquement genre 8 heures par jour. Ensuite il y a d'autres channels qui sont beaucoup plus où là ça devient plus intéressant et ça permet de créer plus de culture et plus de proximité. C'est par exemple on a un channel où c'est accomplissement personnel. Donc nous on a quelqu'un qui tient une chaîne YouTube en dehors du but. Il parle à chaque fois des différents contenus qu'il a publiés. Il met ça en avant auprès de l'équipe. Un autre qui tient un magazine, il parle de son magazine. D'autres qui peuvent être influenceurs, qui font quoi que ce soit. Bon, c'est juste un espace où en fait on casse la frontière entre le professionnel, l'opérationnel plutôt. Et le privé, et l'objectif, c'est...
C'est la machine à café, quoi.
Exactement.
Ouais.
Et là-dessus, c'est juste...
Small talk, et plutôt accomplissement personnel. J'ai fait le marathon, j'ai fait un score de ouf. Hier, je me suis pris une grosse tôle, donc... Non, ça...
Limite. On n'a pas... Ils sont assez prudes dans l'équipe, il n'y a pas encore ce genre de choses. Mais c'est typiquement ça. Ensuite, il y a des espaces... un peu bête, genre pour écouter de la musique.
Okay.
C'est con, ils se mettent quelque part, c'est juste pour chiller un petit peu. Un espace welcome, où dès que quelqu'un de nouveau arrive, on est pingé, comme ça on est capable de l'accueillir, comme ça on est capable de l'inviter dans des rooms spécifiques avec chacune des équipes. Bon, le but, au final, de ce Discord, c'est un endroit où quand on intègre l'équipe, on se sent dans un endroit qui est safe au final.
Ok. Et versus WhatsApp, c'est beaucoup plus flex, c'est beaucoup plus excitant. Enfin, tu me dis qu'on peut rajouter de la musique, etc. Et c'est quoi la différence en fait ? Aujourd'hui, nous, enfin moi dans ma boîte, on est sur WhatsApp à fond la caisse. Ça marche très bien comme ça, mais
c'est un enchaînement de trades en fait. WhatsApp, c'est super bien pour passer des annonces. Ouais. Genre les bureaux sont fermés aujourd'hui, il y a un souci, il y a quoi que ce soit. Ensuite, pour créer des... Bah, en fait, c'est ce que je te disais, c'est vraiment les rooms à part, en fait.
Mais tu peux te faire des groupes WhatsApp.
Après, ça devient juste beaucoup plus compliqué, au final.
Ouais.
C'est pas qui est live.
Ouais.
Par exemple, quand quelqu'un est off, il veut pas être dérangé, bah, on sait qu'il veut pas être dérangé.
Ouais, donc tu lui envoies pas des messages créent... WhatsApp. Quoi.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Ok, trop bien. C'est quoi les autres best practices d'une full remote worldwide ? Discord.
Ouais.
Après, il y a quand même le sujet, donc de travailler en asynchrone. On fait un point par semaine et le reste du temps, on est en asynchrone et donc je dépends pas de l'autre pour pouvoir avancer sur mes sujets.
Ouais.
Par exemple, pour rentrer un petit peu dans le détail, mais tes devs, par exemple, ils sont tous dans un même pays ou pas forcément ?
Pas forcément. Okay. On a au Brésil, sud de la France, Israël aussi.
Okay.
Les best practices, en fait, à ajouter, en fait, nous, il va avoir un gros problème, en fait, quand on est en remote aussi. C'est que, avant de voir quelqu'un physiquement, on n'est pas en mesure de savoir comment la personne, en fait, c'est le ton, en fait, le ton de la voix de la personne n'est pas suffisant pour déterminer la personnalité de la personne.
Okay.
Et il y a quelque chose au final que, avant de rencontrer quelqu'un vraiment personnellement en vrai, on peut avoir des a priori sur la manière dont elle est, si elle est ultra speed, est-ce que c'est parce qu'elle est. Elle veut mettre beaucoup la pression, elle est stressée, ou non, juste elle est juste folle et faut dealer comme ça. Bon, il y a plein de choses au final qui doivent être brisées avec un premier contact physique, en fait.
Et t'as rencontré toutes tes...
On a rencontré toute l'équipe.
Okay.
Là, les dernières personnes arrivées, on n'a pas encore eu le temps, mais on se fixe des règles, en fait. C'est deux fois par an, c'est organiser des off-sites, en fait.
Okay.
C'est,
gros off-site, à quel endroit ?
La première fois, on a fait dans le sud de la France, mais la prochaine fois, on a envie de faire en Turquie ou au Maroc, en vrai, n'importe où, un endroit qui est assez facile d'accès pour tout le monde. Et
pendant une semaine, 15 jours, c'est quoi ?
Une semaine
et on s'amuse ou on travaille ?
Ah, les deux.
Okay.
C'est les deux. C'est plan de travail, des workshops, en fonction de thématiques, aussi en profiter pour faire travailler ensemble la team sales avec la team tech sur certains sujets. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de workshops. Mmh. Mais aussi la possibilité de se décontracter et aussi de se voir sous un autre jour. Et au final, c'est un peu en lien avec le Discord où on est vraiment ultra, ultra proche constamment, mais à distance. Là, au final, ça revient exactement même. Ils poursuivent les mêmes discussions qu'ils avaient sur le Discord, sauf que là, cette fois-ci, c'est en vrai, ça crée plus de souvenirs et c'est important comme ça. Quand on retourne derrière son ordi, c'est beaucoup plus facile ensuite de travailler avec les gars de sa team.
Ok. Les moments d'interaction, donc tu as parlé de Discord qui est quotidien. Vous avez des points en équipe, des weekly, des monthly, des quarterly.
Ouais.
Pour faire des gros anglicismes.
Ouais. En fait, tu regardes la team tech par exemple, daily.
C'est daily. C'est comment ils appellent ça, les step-up, non, les...
Daily stand-up.
Daily stand-up, 5 minutes, on règle les sujets en 5 minutes chrono et chacun se met au travail. Et le daily stand-up, grosso modo, c'est je fais quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Pour être sûr que tout le monde est aligné et que chacun fait pas son truc dans son côté.
C'est exactement ça. Sur le volet sales, tout aussi important parce que... C'est quelque chose, surtout quand on est en remote, qui peut être assez dur. Au final, on peut se sentir un petit peu seul, on peut se prendre éventuellement des vents, ce genre de choses. Donc c'est important de créer une régularité avec l'équipe pour que si chacun puisse partager ses achievements et ses différents challenges, pour qu'ils puissent s'aider mutuellement. Au final, c'est ça l'objectif. Et donc ça, c'est des daily... En fait, c'est des types de réunions qui sont plutôt opérationnelles.
Ok.
Ensuite, on fait des points plus stratégiques, achievement avec la team de manière mensuelle.
Okay.
Où en fait, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on souhaitait faire ce mois-ci ? Qu'est-ce qu'on a réussi ? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi ? Qu'est-ce qu'on doit atteindre le mois prochain ?
Okay.
et insuffler, bah, au final, mettre en avant les achievements de chacun, au final, qui peut être fait en silo, vu qu'on est en remote, de toutes les manières, et c'est pouvoir le mettre en avant auprès de l'ensemble de la team.
Et ça, ces réunions-là, ces meetings, ça se fait en live, sur Hangout ou sur...
Exactement, sur Zoom.
Sur Zoom, ok. Ouais. Très bien. Trop cool. Et toi, ton rôle, c'est quoi aujourd'hui ?
Dans la boîte, ouais. Donc là, c'est... c'est CEO de la boîte, donc
CEO,
c'est
donc c'est le visionnaire,
c'est insuffler la vision par rapport au community led growth, c'est aussi être le premier point de contact de nos ambassadeurs, nos clients au final, et également de dealer avec tout ce qui est fundraising.
Ok, d'accord. Donc ça, c'est ton job. Ouais. Comment est-ce que tu as appris et comment est-ce qu'on devient CEO?
En fait,
non, mais le titre, c'est une chose, mais comment est-ce que tu deviens, que tu prends le rôle, que tu t'appropries le rôle, quoi.
C'est intéressant, ça se fait d'une certaine manière, assez naturellement. C'est-à-dire, au début, tu l'es clairement pas. T'essayes de développer. En fait, t'as une problématique. T'es vraiment focus sur le client. Mais au bout d'un moment, l'objectif, c'est un peu de step up, voir beaucoup plus loin par rapport à la vision commune qu'on a dans la boîte, l'insuffler auprès de l'équipe. Et donc, c'est à ce moment-là que ce chiffre se fait.
Ouais. Et l'incarnation, la vision, le mener les réunions, enfin mener toute l'équipe, quoi.
Ouais.
Ok. De quoi est-ce qu'on parle? On a parlé déjà de beaucoup de choses. Ce que je te propose, un truc, c'est qu'on fasse une petite pause. Je vais me faire un refill de café.
Vas-y,
si ça te dérange
pas. Aussi, je prends de l'eau.
Et on reprend la discussion. On reprend. On a fait pause café. On est en train de parler de typiquement outsourcing service client. Tu me parlais d'une boîte qui s'appelle One Pilot.
Exactement.
Et ce qui est intéressant que tu disais, c'est qu'avant de recruter qui que ce soit, comment est-ce que tu peux outsourcer systématiquement, automatisé, etc. C'est vraiment un mindset que vous avez, vous, de votre côté.
Ouais, en fait, c'est important et c'est en lien avec la création d'une culture de boîte. Il faut que chaque personne qui arrive, elle a un talent, elle ait quelque chose à apporter à la boîte d'un point de vue valeur, et que ce soit pas uniquement une personne en charge de tâches répétitives. Ouais. Et au final, par rapport à ça, il y a des... C'est la team que tu constitues. Et même, en fait, c'est intégrer le plus possible ta core team, et ensuite t'as des gens qui sont freelance, qui ont l'habitude d'enchaîner des différents types de jobs pour plein d'entreprises. Et au final, t'as une tâche répétitive à faire, que ce soit du ticket management, actualiser des Google Sheets, etc. En fait, on croit pas au fait de prendre un stagiaire qui va s'atteler à la petite besogne, parce qu'au final, le stagiaire fait partie de l'équipe, il va être intégré à l'équipe, mais au final, il fait des choses qui peuvent être un peu plus dévalorisées. Et donc là, vraiment privilégier autant que possible, que ce soit freelance, contractor, sur ce genre de tâches.
Ouais. Et tu parlais de One Pilot, par exemple, pour le service après-vente, pour gérer tes tickets.
Ouais.
T'as d'autres tips comme ça, assez cool. À part One Pilot, sur l'automatisation des choses ou des services externes, quoi.
En service, nous on utilise un outil qui nous a permis complètement de passer à l'international, en fait, d'avoir une team complètement remote, et c'est une boîte qui s'appelle Deal, en fait. Okay. C'est letsdeal.com. C'est un truc formidable, en fait. Ça permet d'engager des gens, donc soit en format CDI, soit en format contracteur freelance, de personnes vraiment tout autour du monde.
Okay.
Et sans avoir à s'occuper au final de tout ce qui est paperasse, légal, etc. C'est vraiment grâce à Deal au final qu'on a pu être une boîte avec des gens dans le monde entier.
Ok, donc letsdeal.com,
je sais pas.
Ouais, Let's Deal, tu nous donneras le lien. Trop cool. On a fait un grand tour. Je voulais juste reprendre mes notes. Ouais, j'aimerais qu'on revienne sur la partie... réseaux sociaux. Toi, ça fait un bout de temps que t'as le nez dedans et tu vois pas mal de best practices, etc. toutes les marques qui déchirent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Quelles sont les best practices que tu vois en ce moment? Est-ce qu'on se parle du reach pourri en ce moment sur Instagram, etc.? Peut-être des sujets que j'aimerais bien aborder avec toi.
Bah en fait, c'est une situation assez particulière. Depuis le Covid, les réseaux sociaux, c'est complètement crowded. Donc, d'un point de vue ads, ça devient ultra complexe. En plus, il y a les dernières mises à jour iOS, également Android, qui ont fait que c'est beaucoup plus
Android difficile. Android aussi, il a fait des...
Ouais, ils ont fait exactement la même chose.
Ils ont fait exactement la même chose. Donc, mais c'est quoi, ils voulaient défoncer Facebook, non? C'était quoi l'objectif?
C'est privacy. En final, c'est eux, ils vendent de l'hardware, ils vendent pas de l'ads. Donc, tout ce qu'ils peuvent mettre en avant pour
protéger les utilisateurs.
Exactement.
Ok, parce que juste pour ceux qui seraient pas au courant, donc Apple et Google, c'est qui Android?
Android, c'est Google.
C'est Google. Ouais. On met en place des privacy policies qui sont un peu plus dures et qui empêchent les cookies.
Exactement.
Et les cookies, c'est ce qu'utilisait Facebook pour comprendre et savoir ce que faisaient les utilisateurs Facebook, Instagram sur toute la toile. Et donc aujourd'hui, en fait, ils se retrouvent avec très peu de data, avec beaucoup moins de data qu'auparavant, pour pouvoir targeter les bonnes cibles
exactement.
En paid.
C'est exactement ça. Donc, par rapport en fait à ce nouveau paradigme où il y a plus de personnes qui veulent faire de l'ads, l'ads devient plus difficile, etc. Bah, les coûts, ils ont complètement augmenté. En plus, il y a plus de personnes, il y a plus de marques. Bah, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et ce qui fait
reach organic,
l'entrée est ultra compliquée. Et coût également pour faire de l'ads, pour faire de l'acquisition payante, augmente énormément. Et donc, nous, ce qu'on voit au final, les best practices, c'est que toi, de ton côté, en tant que marque, tu vas avoir un souci, ton reach organique est clairement mauvais. Mais par contre, les personnes qui sont fans de toi, eux, le reach organique est toujours très élevé parce que c'est du contenu que les autres personnes ont envie de voir, c'est pas commercial. Donc au lieu de se battre et se dire je vais travailler, je vais faire des posts plus beaux, je vais travailler sur les contrastes, je vais faire des concours, je vais faire n'importe quoi pour essayer de gagner un petit peu en reach, ce qui au final fonctionne pas, c'est tout le monde essaie de faire la même chose, tout le monde se casse les dents, c'est d'aborder la problématique différemment. C'est tout l'effort que j'aurais mis sur du contenu, sur ce genre de choses, le placer plutôt du côté de sa communauté, travailler en fait le plus possible pour identifier les personnes clés de sa communauté, et au lieu de vouloir faire un post tout seul dans son coin, trouver le moyen d'encourager sa top communauté de se sentir investi aussi par cette opération et qu'elle a envie naturellement d'en parler. Et donc au final, au lieu de dépendre uniquement de soi, on sait qu'on a une communauté engagée qui va pouvoir simuler un reach beaucoup plus élevé, parce qu'au moment où elle va faire un post, tout le monde va voir ça.
Trop bien. Dans les clients qui utilisent Ubu, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples comme ça de gens qui ont bien utilisé Ubu et qui ont bien utilisé leur communauté pour aller toucher plus de gens et faire de l'acquisition finalement? Parce que là finalement c'est de l'acquisition qui coûte beaucoup moins cher que faire du paid. Est-ce que tu conseilles de faire du paid encore?
Toujours, de toutes les manières, un bon marketing mix, il faut essayer tous les channels possibles, et ensuite il faut arbitrer, c'est simple par rapport au coût d'acquisition, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, qu'est-ce qui est le plus scalable pour sa marque. En vrai, toujours faire du social ad, mais après de manière différente. Donc on a un client assez intéressant aux États-Unis qui a une montre de marque, une marque de montres, qui s'appelle Vaer. Et en fait, ils n'ont jamais pensé à engager leur communauté. Ils ont peut-être 20 000 abonnés sur Instagram, mais ils font tout en ads, tout en e-commerce. Ils ont Klaviyo avec leur newsletter, machin truc. On a commencé à travailler avec eux. Et en fait, eux, ils avaient une problématique, c'est comment déjà se constituer une communauté d'ambassadeurs et comment le plus la valoriser possible. Donc nous, ce qu'on a fait avec eux, c'est on a analysé leurs 20 000 followers et on a pu trouver des personnes, des potentiels ambassadeurs pour eux. On s'est aussi amusé à analyser des communautés autour de la chasse et de la pêche. C'est assez marrant, un pêcheur par exemple, quand il a sa canne à pêche, la première chose qu'on voit, c'est la montre en question. On a pu identifier des personnes donc vraiment alignées avec sa proposition de valeur, qu'on a contacté en masse via DM, en leur proposant de faire un partenariat, mais en fait même pas faire un partenariat en leur proposant de faire du gifting tout simplement.
Okay.
Genre je kiffe ton délire, j'aime trop ce que tu fais, etc.
Je t'offre une montre.
Exactement.
Ok.
Je t'offre une montre, t'en fais ce que tu veux. Sincèrement, t'en fais ce que tu veux.
Okay.
Donc bien évidemment, les gens étaient ultra saucés. Personne n'a demandé quoi que ce soit en retour, okay, parce que c'est un cadeau. On a eu 90% de taux de retour positif. Donc sur 100 personnes, il y en a 90. Quand on a contacté 100 personnes, il y en a 90
qui ont dit OK,
qui ont accepté le cadeau. Et parmi ces gens-là, des gens qui ont genre dans les 100 000 abonnés, en plus des profils masculins, et pas trop, il y a beaucoup moins d'influence masculine. Derrière, donc, sur ces 90 profils, t'en as 60 qui étaient ultra saucés, bah, qui ont créé du contenu naturellement. On a réutilisé une partie de ce contenu pour en faire du social ads, au final.
Ouais.
Donc, ils ont donné l'autorisation. Pour certains, on a même pu faire ce qu'on appelle du whitelisting. Donc, c'est au final demander l'autorisation à la personne, à l'ambassadeur, de pouvoir bider, faire de l'ads directement depuis son compte pour mieux targeter sa propre audience ou trouver des audiences similaires par rapport à ce qu'il a déjà. Et donc comme ça, tu crées de l'ads.
Whitelisting.
Whitelist. Ouais.
Et ça veut dire que tu vas sur son compte de business manager ?
En fait, il te donne un droit pour que sur ton espace Facebook Ads Management, eh ben, tu puisses directement bider sur un post qui a été fait par lui.
Ok. C'est ouf.
Ouais, c'est monstrueux.
Et ça marche trop bien.
Ça marche trop, trop bien. Okay. Bah, c'est ça, quand je te disais du passer de fois 2 fois 3, enfin multiplié par 2,5-3
les ROAS. Ouais.
Ouais, ouais. C'est vraiment monstrueux.
Ok. Donc ça, super.
Ouais.
Et en France, t'as des gens qui ont fait des trucs cool comme ça
Qui sont allés jusqu'au bout. Nous, on travaille beaucoup avec The Bradery.
Ouais.
De la même manière, en fait. Eux, ils ont une approche, bah, c'est de se créer la communauté d'ambassadeurs la plus engagée, mais à la plus forte valeur ajoutée.
Okay.
Et donc, on a analysé tous leurs followers, on a identifié 100 personnes qui étaient des potentiels bons ambassadeurs. Ils les ont intégrés dans des campagnes, ils ont fait des partenariats réguliers avec eux.
Ouais.
Et avec la data qu'on est capable d'apporter sur notre plateforme, à savoir bah, combien de revenus ils m'ont apporté, combien de reach ils m'ont apporté, quelle awareness, etc.
Ouais.
Et ben, ils ont la possibilité derrière d'arbitrer systématiquement cette communauté de 100 ambassadeurs pour éviter en fait, de rajouter bah, un layer sur une base qui n'est pas trop ouf. Et ben, en fait, c'est les 100 qu'on a, et ben, on la peaufine systématiquement pour toujours avoir les profils bah, qui apportent le plus de valeur pour la marque. Et ça, c'est assez intéressant.
Très bien. Et ça, c'est un travail de long terme quand même, parce que c'est je me rends pas compte, c'est long à mettre en route, à mettre en place, entre le moment où tu décides de faire une campagne avec ta communauté et que tu récoltes les fruits, il y a quand même quoi, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Ça en peut
fait, aller beaucoup plus vite.
C'est quelque chose qui va assez rapidement en fait.
Ok.
C'est de la manière dont on le fait. De toute manière, c'est la base de données communautaires qu'on crée à nos utilisateurs. L'objectif, c'est qu'ils puissent vraiment highlighter ultra facilement les personnes clés. Derrière, pour les contacter, ça peut se faire donc via DM en nombre. Ensuite, le premier gifting, c'est des choses qui peuvent se faire vraiment sur 2 à 3 semaines en comptant le moment où l'ambassadeur reçoit son produit. Par contre, il est vrai que c'est un process qui peut être un peu chronophage à répéter constamment. Il faut toujours le répéter. Et donc là, on est en train de lancer en fait une nouvelle version de l'outil où ça va être en fait un système de tribe, un système d'opt-in. L'objectif, c'est de créer un peu une newsletter, mais sociale avec sa top communauté.
Okay.
Donc quelqu'un t'envoie un DM, il dit « Ah, trop cool ce que tu fais ». En général, on envoie juste un cœur, on ferme le message.
Ouais.
Là, l'objectif, c'est de dire « Ah bah, tu kiffes ce qu'on fait. Tiens, voici un lien vers notre tribe form afin que tu puisses intégrer notre top communauté, notre communauté d'ambassadeurs. » Et comme ça, in fine, la marque a la possibilité de filtrer des gens qui ont déjà accepté de faire partie de la communauté d'ambassadeurs et de sélectionner par exemple toutes les personnes qui ont entre 1000 et 3000 abonnés, définir une campagne avec un call to action spécifique et créer des campagnes automatisées où là on va pouvoir envoyer un SMS et ça va dire bah, si tu fais un post et une story, on serait trop content de t'offrir -20%, -30%, un code ou quoi que ce soit sur ta prochaine commande. Et donc là l'objectif c'est vraiment de faciliter le scale dans cette approche en fait d'engagement communautaire.
Un des sujets aussi, c'est plus logistique, c'est une fois que tu fais une campagne, envoyer un produit à 100 personnes à la mano, c'est un peu chiant quoi. Comment vous le gérez vous et comment gèrent les marques, comment est-ce que les marques le gèrent? Elles passent par leur logisticien habituel?
Exactement. Là, pour faciliter ça, on est en train d'intégrer des intégrations avec Shopify, les différentes plateformes e-commerce, comme ouais. ça. Bah,
tu crées tes commandes.
Et c'est comme ça.
Tu uploads ton fichier.
Bah, exactement. Okay. Exactement. Okay. Et donc c'est une commande basique, donc ça crée aucun silo.
Ça crée pas de galères logistiques et de ouais, c'est tu crées pas tes petits colis à la maison ouais. à l'arrache. Trop bien. T'as d'autres exemples comme ça un peu croustillants de best practice.
C'est assez similaire au final.
Ouais. Ok. C'est toujours la même chose, similaire ouais.
parce qu'en fait l'objectif principal c'est de savoir pour la marque. Quelle est sa proposition de valeur ? Et en fait, l'enjeu, c'est toujours trouver des personnes qui sont alignées avec sa proposition de valeur et trouver les personnes qui vont être les plus saucées au final à le faire de manière naturelle et authentique.
Ouais.
Donc après, c'est assez similaire.
Mais okay. Très bien, pas de problème. Vous, votre acquisition, comment vous la faites ? Comment vous allez chercher des nouveaux clients ? C'est du bouche-à-oreille ? Tu dis que tu as une équipe de sales, etc. Si tu vas aller chercher tes nouveaux clients ?
Ouais, donc on a pour le moment deux channels distincts. On a un channel qui est plutôt « grosse », entre guillemets.
Ouais.
Donc c'est on a pu scraper en fait sur Instagram énormément de profils qui rentrent dans nos critères de qualification, donc des comptes Instagram qui ont un certain nombre d'abonnés, qui ont un brand manager, qui ont ce type de choses. Derrière, via LinkedIn, on est capable de choper le profil, l'adresse email de la personne, tout ce genre de choses. Et donc là, tout simplement, on fait des campagnes d'automatisation mais à scale. Donc on fait de l'outbound, des emails, des cold emails en fait. On en envoie 100 par jour, par région. Et donc là, au final, ça permet d'avoir des personnes qui répondent et qui rentrent dans le pipe parce qu'elles sont intéressées, parce que ce message est tombé au bon moment. Ensuite, on a une catégorisation de clients, en fait, des personnes clés avec qui on sait qu'on est capable de leur apporter énormément, énormément de valeur.
Okay.
Donc c'est des direct to consumer qui ont une certaine communauté avec une certaine proposition de valeur dans une certaine catégorie, donc retail, cosmétiques, ce genre de choses. Et là, à ce moment-là, on sait que c'est des key targets parce que si elles nous essayent, elles vont tirer énormément de valeur et donc le game est fait assez facilement. Et donc là, c'est du combat en fait à bras le corps, hein. C'est analyser le profil. Donc chacun des sales a une liste assez restreinte. L'objectif, c'est de faire énormément de recherches sur le client. On doit savoir exactement la manière dont il fonctionne, pourquoi on est capable de lui apporter de la valeur. Et comme ça, quand on le contacte à froid de manière ultra customisée, on a une approche de problème solver plus que de vendeur de tapis. Ouais. Et donc là, c'est créer une première relation, comprendre les enjeux du client, les enjeux communautaires qu'il a, les enjeux de croissance aussi qu'il peut avoir par rapport à sa communauté. Et donc là, c'est vraiment en fait plus du conseil pour ensuite pouvoir les convertir.
Trop bien. Charmé, franchement, on a fait un grand tour déjà. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder, qu'on n'a pas forcément abordé ? Si, moi, j'ai une question d'ailleurs que je me posais, qu'est-ce qui doit gérer Ubu dans une équipe ?
Ouais. Sur ce qui est opérationnel en général, c'est le community manager.
Ouais.
Et vraiment, l'approche, ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt, c'est de rendre des tâches qui sont très réactives. C'est on doit répondre à un problème, on doit juste répondre un cœur à un cœur. Tu vois, des choses où au final, tu capitalises pas sur ce travail-là. Pouvoir transformer ce travail plutôt réactif en quelque chose de proactif.
Ou
quelqu'un qui t'envoie un cœur, c'est que c'est quelqu'un d'important pour toi, enfin, t'es important pour lui, et il peut être important pour toi. l'intégrer dans un listing particulier, penser à faire le plus de campagnes pour engager les personnes clés, créer maintenant, tu vois, il y a des fonctionnalités de story privée, on est capable d'engager uniquement des personnes clés de sa communauté. Ouais. En fait, vraiment avoir une approche plus communautaire qu'avoir une approche média. Mm. Et en fait, on oublie community management, rien que le nom, en fait. Management, c'est genre, tu vas gérer, c'est quelque chose de très froid, ça devrait être plus quelque chose genre de community engagement. C'est ouais. une approche et... tes top fans, tu vois, en vrai, dans ta communauté, t'as des top fans, t'as des ambassadeurs, t'as des gens qui pourraient l'être, t'as des gens qui sont juste là un petit peu spectateurs, mais l'objectif, c'est les top fans et les gens qui pourraient être top fans, les engager de la meilleure manière possible, ouais. parce que c'est avec eux, au final, que tu vas être capable de faire grandir ta marque,
okay.
en lien avec les considérations de reach organique, dont on parlait, d'ads, etc. Au final, okay. c'est bien vraiment important de se rassembler okay. des personnes clés.
Mais ça, c'est full-time job, quoi.
C'est full-time job.
Ouais. Et donc...
Enfin, c'est au niveau de ton ambition, en fait.
Ouais.
Tout dépend. Et au final, là, je te parle de ça, c'est pas forcément avec Ubu. Hein, et ça, c'est quelque chose que oui. tu peux faire dans... Enfin, même toi, tu crées ta marque, ouais. et ben t'as cette approche-là.
Ouais.
Au lieu de vouloir un peu snober, entre guillemets, les personnes de sa communauté, et ben de se dire, ben non, au final, c'est des gens qui sont engagés, ils ont une perception particulière de ma marque, bah, échanger avec eux, savoir qu'est-ce qui plaît dans mon produit chez eux,
ouais.
Pour pouvoir toujours... améliorer son marketing mix, mm-hmm. en fait, pour pouvoir toujours avoir le meilleur placement, le meilleur message.
Qui le fait très bien, à ton avis, aujourd'hui, dans le mode ? Qu'est-ce qui le fait très bien ? Parce que
moi,
il y a
une marque qui m'a... En fait, c'est assez intéressant, mais il y a une marque qui m'a assez étonné, c'est la marque Jennifer.
Ok.
C'est assez intéressant. Donc, ouais. c'est pour Gen Z à fond.
Ouais.
Ils ont un rapport à la communauté qui est ultra, ultra fort. Ils sont capables d'engager. Donc, ils font énormément d'influence aussi, hein, mais ouais. ils sont capables d'engager vraiment leur top communauté ultra, ultra facilement. Et aussi, ils servent de ce rapport à la communauté pour se mettre dans la tête du client final.
Ouais.
Et c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment ultra intéressant.
Ok, on ira voir ce que fait Jennifer. Il y a aussi ce sujet quand même aujourd'hui sur Instagram de faire du contenu. Parce que le biais souvent des gens que je rencontre moi jusqu'à présent et des gens et dans la mode en général, tu dois l'avoir aussi du côté de ta maman et tous les gens que tu croises, ouais. c'est que quand on vient de la mode et qu'on vient des écoles de mode et qu'on vient des écoles d'art, etc., on a une relation à l'image qui est très léchée, il faut que ce soit beau, etc. C'est très c'est top down, quoi. C'est très je fais une super belle image de mode.
Alors que ça marche pas.
Et ça marche plus du tout.
Ça marche pas du tout.
Et donc aujourd'hui, t'es plus en mode il faut faire des réels, il faut montrer sa tête, et accepter de faire des images beaucoup moins léchées.
Bah en fait, on travaille avec une marque qui s'appelle Bombinaté. On a fait un article de blog sur Alessandra qui est leur brand manager.
Ouais.
Et en fait, elle a une approche assez intéressante. Elle a décomposé les différentes opportunités que propose Instagram en fonction de ce qu'elle souhaite faire, en fonction de l'objectif. Ce dont je me souviens, c'est le feed, c'est ce que tu dis, c'est léché, il faut que ce soit beau. C'est ta landing page, en gros. Tu t'attends à rien. Il faut que les gens qui viennent disent « Ah, c'est vraiment cool ce qu'ils font ». Les reels, ouais. elle va chercher de la viralité systématiquement. Donc si elle crée un reels, il faut que ce soit viral, quitte à ce que ce soit moche, pas léché par rapport au feed, etc. Okay. C'est vraiment pas le problème. Et par contre, les stories, c'est de l'engagement. C'est vis-à-vis de sa top communauté.
Ok. Très bien. C'est Bombinaté, hein.
Ouais.
C'est ça. Donc c'est Discover 300 European Conscious Brands. Et ils font du dropshipping. Non, ils font du. Non. Pardon, j'ai une connerie. Du. Dropping every Monday. Donc, non, c'est pas ça.
Il me semble que c'est un peu comme The Paris qu'ils font, mais sur de la mode masculine.
Ok, très bien. Interesting. Ok, Bombinaté. Ok, je regarderai, on regardera ça un peu plus près. Trop bien. Donc, la personne qui doit gérer ça, c'est ton community manager ou ton.
Ou le CEO directement.
Le CEO,
en fait, c'est le CEO,
etc.
c'est le fondateur déjà qui commence.
Qui met
à faire.
Les mains dedans.
Ouais. Ouais, au début, oui, de toutes les manières, c'est une chance inouïe en fait de pouvoir être autant en contact avec les personnes qui aiment sa marque. Ouais. Donc, commencement, oui.
Trop bien. Excellent. Ok, next step, qu'est-ce qu'on fait ?
Chez Uber ?
Ouais.
Écoute, internationalisation à fond.
Ouais.
Marché ultra inconnu pour nous, c'est les US et c'est vraiment le gros challenge.
Ouais. Parce comment que on attaque les US alors ?
Écoute, ça a nécessité de la recherche. Honnêtement, ça a nécessité plus de recherche et ça va pas. Au début, on était assez naïfs. On s'est dit, bon, bah là-bas, on passe des coups de fil, on peut le faire depuis ici, ça va marcher très bien. Alors que non, en vrai, on voit que c'est un écosystème qui est beaucoup plus complexe. Il y a des influenceurs e-commerce, il y a un nombre de softwares beaucoup plus délirants qui existent sur le marché. Donc il faut trouver des manières plus fines. Donc nous, c'est pour ça qu'on travaille énormément sur la brand, je t'en parlais, sur le content, sur la Ubu Academy, tout ce qu'on veut faire en fait pour rassembler le plus de marques et pour qu'en fait ça devienne une évidence que Community Led Growth soit associé avec Ubu.
Okay.
Donc ça, c'est un gros challenge. Et ensuite, un challenge d'être toujours en fait d'être toujours le produit le plus complet par rapport en fait à toutes les modifications, pas forcément les concurrents.
C'est qui vos concurrents aujourd'hui?
En fait, on a un marché qui est assez étrange. On a d'un côté des outils de community management, par exemple Sprout Social, mais des choses qui sont très froides, qui ont été créées en 2012. En 2012, les réseaux sociaux, les interactions, ça a explosé. On disait juste, il faut savoir ce qui se dit. Il faut éviter qu'on dise des choses mauvaises sur moi et que je puisse le savoir si ça le fait. Donc, ça a vraiment un rapport en fait de listening et de gestion. Et de l'autre côté du spectre, il y a des outils d'influence marketing où là, l'objectif, c'est trouver le plus de visibilité possible avec des gens qui n'ont pas forcément un lien avec moi. C'est un petit peu retranscrire ce qui se passait sur la presse et vouloir leur mettre sur des personnes, sur les réseaux sociaux. Donc, on se pose vraiment en fait, au milieu de ce spectre-là, avec une approche beaucoup plus community-centric et engagement de communauté. Yes.
Ouais. Voilà. OK. Très bien. Levée de fonds encore ?
On en discute.
Ouais.
Ouais.
Très bien.
À voir.
Qu'est-ce qu'il faut Non, écoute, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des
C'est à toi.
Il y a toujours deux questions que je pose en fin d'épisode. C'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette industrie de la mode que tu souhaiterais particulièrement entendre, à part ta maman ? Vas-y.
Ouais. Il y a une personne qui est ultra inspirante. Adam Bobot, donc il est CMO d'une direct to consumer qui s'appelle Ana Luisa.
Ouais.
Et en fait, c'est un peu un modèle dans ce qu'il a réussi à mettre en place pour fédérer la plus grande communauté d'ambassadeurs engagés. Genre, là-dessus, c'est un vrai génie. Il a théorisé un système, une manière de faire et tout, vraiment, vraiment très forte et qui peut être très inspirante pour d'autres entrepreneurs dans le secteur.
C'est un Américain ?
C'est un Français, mais il est basé à New York là.
D'accord. Trop bien, et tu peux me mettre en relation avec lui ?
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
Trop cool. Je vais lui parler. Dernière question, j'ai une marque qui s'appelle Réuni. Je sais pas si tu as eu le temps de jeter un coup d'œil. Quel conseil donnerais-tu à Réuni pour devenir le king de sa catégorie ?
Ouais, moi, ce que je ferais si j'avais une marque demain, c'est commencer par l'image, commencer par les valeurs, etc. Donc, c'est quelque chose que tu as déjà, c'est cool. Et ensuite, c'est vraiment deeper par rapport aux personnes qui sont engagées vis-à-vis de toi, quel serait en fait le meilleur marketing mix. Et se dire, par rapport au prix, par rapport au placement, par rapport à la distribution, par rapport à ce type de truc, par rapport aux gens qui sont engagés vis-à-vis de moi, qu'est-ce qui ferait que ça les rendrait encore plus excités. En fait, pour toujours tirer le produit, enfin la marque vers le haut, en fonction des personnes qui sont prêtes à la représenter, à te mettre également en avant en fait.
Ok, très bien. Trop cool. Merci infiniment pour ton temps et pour tes bons conseils.
C'était trop cool.
Et comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi et comment est-ce qu'on trouve Ubu ?
Ouais, donc c'est sur internet, donc www.getubu.com.
Ok.
Ou bien sur LinkedIn, Paul Albou ou paul@getubu.com.
Très bien. Merci infiniment. Salut.
Merci, c'était super.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.